Je vous invite à ouvrir votre livre de vie, la parole de Dieu, dans le prophète Ésaïe. Et la méditation de ce jour, attendre Jésus-Christ au milieu de l'ébranlement du monde. Ce n'est pas toujours calme, mais c'est toujours assuré de la présence de Jésus. Et là, j'ai trouvé ce texte d'Ésaïe approprié, Ésaïe 26. Ésaïe 26, verset 20. Vous avez trouvé. Ésaïe 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tout ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Amen. Et puis, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, nous faisons la lecture de quelques versets du chapitre 5. 1 Thessaloniciens. Ces textes se rejoignent évidemment. Ils se font écho. Et nous, nous sommes dans ce temps. Malheur à ceux qui ne verraient pas dans quel temps nous sommes. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Seigneur, bénis ta parole, afin qu'elle trouve le chemin de notre cœur et qu'elle puisse séparer en nous le mal et le bien, qu'elle puisse séparer ce qui est de l'esprit et du monde, et qu'ainsi cette parole nous avertisse, nous tienne éveillés, nous tienne face à la venue certaine et véritable de Jésus, le Sauveur du monde. Amen. Amen. Dans le premier texte, nous voyons un jugement, et dans le deuxième aussi. Le Seigneur jugera le monde. Les impuretés, les violences, rien ne tombera à côté. Il jugera avant le jugement dernier. C'est le message des prophètes. Déjà il y a eu Ninive, déjà il y a eu Lot et Sodome et Gomorrhe. C'est le message des apôtres de Jésus et de l'Apocalypse. Ce que je demande au Seigneur, c'est qu'il me donne l'intelligence des temps que nous vivons. Que Dieu nous donne de discerner le temps pour que nous ne dormions pas. Je ne veux pas vous attrister. Je l'entends moi-même maintenant sur la radio. Le monde est dans un déclin qui va en s'accentuant et le monde va s'effondrer. Il s'est déjà effondré. C'est pas une nouveauté. Là, notre monde est dans un péril. L'Apocalypse dit qu'il y aura une heure de tentation, d'épreuve qui va éprouver tous les habitants de la terre. Il y a eu les deux chutes de Jérusalem. Qui aurait pensé que Jérusalem se serait écroulée comme un château de cartes? Deux fois, elle s'est écroulée, et pas par un tremblement de terre, mais parce que Dieu jugeait les iniquités de son peuple. Et Jérusalem s'est effondrée. Et nous, nous sommes dans un temps où l'effondrement n'est pas loin. Et le Seigneur dit dans ce texte du prophète Ésaïe, « Entre dans ta chambre et cache-toi. » Parce qu'au milieu de ce chaos, l'Église ne peut pas faire grand-chose. Elle peut prier, être en dialogue avec les autres, mais elle n'empêchera pas les événements. Va, mon peuple, dit le Seigneur, entre dans ta chambre et ferme ta porte et cache-toi pour quelques instants. Parce que le monde va être secoué. Et quand le lac de Tibériade a été secoué, la barque des apôtres a été secouée, la barque de Jésus a été secouée. Et quand le monde sera secoué, l'Église aussi sera secouée. Entre dans ta chambre, cache-toi. Jésus a repris cette parole pour nous parler de la prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre, reste près du Seigneur, qui est dans ton cœur, qui voit tes secrets, qui est dans le secret de ton cœur. Donc, cache-toi avec le Seigneur dans ta chambre. Jésus nous donne des conseils pour ce temps d'épreuve que nous commençons à vivre avec des douleurs, avec des incertitudes. Prenons garde que personne ne nous séduise. Cache-toi, dit le Seigneur. Il y aura des temps où l'Église ne pourra rien faire. Au bruit des flots, au bruit de l'eau, où les hommes mourront de peur, l'Église ne pourra rien faire. Et puis, devant les bruits de guerre, l'Église ne pourra rien faire. Cache-toi dans ta chambre. Quand le Seigneur a envoyé la sécheresse sur Israël, parce qu'ils étaient dans l'adultère, dans l'incrédulité, dans l'idolâtrie, quand Dieu a envoyé la sécheresse, il a dit au prophète Élie, « Cache-toi, cache-toi près du torrent, cache-toi chez une veuve qui te nourrira, cache-toi comme Noé qui se sépare du monde incrédule et qui prépare la construction de l'arche pour sa famille. Cache-toi pour échapper à cette influence qui dépasse tes forces. Ça ne veut pas dire se retirer du monde, mais il faut se sanctifier. Sanctifier veut dire on trace une ligne de démarcation, une ligne de séparation. On ne peut pas faire la fête avec tout le monde. On ne peut pas parler avec n'importe quoi, n'importe qui. Mais il faut laisser la porte ouverte comme l'arche de Noé. Noé s'est caché, il a travaillé dans l'arche, mais il a laissé la porte ouverte pour dialoguer, appeler, prêcher. Et puis, qui a répondu à son appel ? Les animaux. Ce ne sont pas les hommes, les femmes, les jeunes, les vieillards. Ce sont les animaux, les éléphants, les biches, les tortues, les souris. Mais en sauvant la famille de Noé, Dieu sauvait l'humanité. Et en sauvant les animaux, il sauvait l'univers. C'est ainsi que Dieu opère. Ici, il est dit, le Seigneur sort de sa demeure pour punir les habitants de la terre et mettre à nu leur crime et le sang. Mettre à nu le sang. Mystérieusement, la terre et le ciel gardent le souvenir du sang versé. Il y a des crimes aujourd'hui terribles. Il y a des guerres qui tuent des milliers de gens. Mais la terre garde une marque. La terre garde une mémoire du crime. Et au jour de Dieu, quand il apparaîtra, tout ce mal sera mis à nu et à découvert. Dieu disait à Caïn qui avait tué son frère Abel et qui s'en tirait pas mal, Dieu lui a dit, « Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre. La voix du sang de ton frère crie. Que dit ce sang ? Justice. » Mais le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus crie, « Pardonne-leur. Miséricorde. Pardon pour les pécheurs de la terre. Amen. » En voyant Sodome et Gomorre, Dieu confie à Abraham un secret. Le cri contre Sodome. La terre crie. On n'en peut plus parfois. Le cri contre Sodome est monté jusqu'à moi. Parce que leur péché s'est accru. Il est énorme, dit le Seigneur. Il est monté jusqu'à moi. Je ne crois pas que nous pourrons continuer de vivre sur une terre gorgée de sang, où des enfants sont des enfants soldats par dizaines de milliers, où les peuples sont dans la détresse. Je ne crois pas que nous continuerons. L'Éternel sort de sa demeure et tout le mal sera mis à nu et à découvert. L'apôtre le disait, ne jugez de rien avant le temps, où tout sera mis à nu et à découvert. On n'est pas le juge de personne. On ne sait jamais tout ce qui se passe dans les foyers. On ne sait jamais quelle est la part de responsabilité. Ne jugez de rien avant le temps où tout sera mis à nu et à découvert. Ça parle, hein ? Le Seigneur sort pour juger, pour réparer. Et puis il sort aussi parce qu'il y a dans la mer c'est le monde, c'est l'image de l'humanité. Il y a le serpent fuyard, le Léviathan. Ce serpent imaginaire, c'est une image. Ce n'est pas le Loch Ness, c'est un serpent imaginaire pour nous montrer la puissance du mal. Ce serpent fuyard, ce serpent qui détruit. Mais ce serpent, à l'époque, c'était la Syrie. À l'époque d'Ésaïe, c'était Babylone, c'était l'Égypte. Et nous, aujourd'hui, nous pensons à tout ce qui dégrade la terre, à toutes les violences, à toutes les injustices, à tout le mépris, à tout le pouvoir, à tout ce qui détruit les enfants, les femmes, les foyers, les hommes, tout ce qui détruit aujourd'hui les couples, tout cela, c'est le serpent fuyard, le Léviathan. Mais l'Église est comme une vigne sous la protection du Seigneur. Amen. On l'a lu, Ésaïe. J'en suis le gardien. Je garde mon peuple. Mais cache-toi, mon peuple. Ne touche pas à ce qui est impur. Séparez-vous et je vous accueillerai. Nous sommes dans cette époque. Le Seigneur dit, cette vigne de mon peuple, je l'arrose à chaque instant. Jour et nuit, je l'arrose. Je l'arrose parce que c'est une sécheresse du monde et il faut qu'elle porte du fruit. Il ne faut pas qu'elle soit abattue, triste. Il ne faut pas qu'elle s'adapte au monde. Aujourd'hui, on s'adapte au monde. Tout le monde fait cela. Mais l'Église, elle doit s'adapter de plus en plus à Dieu pour apporter un message rayonnant. Alors, je l'arrose, ma vigne, alors que je sors pour punir la terre et je pense que Dieu est en route. Je l'arrose, ça veut dire, je répandrai de mon esprit sur vous, amen, et je vous purifierai et vous porterai du fruit. Je l'arrose à chaque instant. Le Saint-Esprit nous est donné éternellement, comme un fleuve qui sort éternellement. Comment se fait-il que de notre pauvre petite nature, que de notre pauvre corps qui se fatigue, qui vieillit, comment se fait-il que de notre petite personne qui ne fait pas grand-chose, un fleuve sorte jour et nuit ? On ne peut pas l'arrêter, c'est le fleuve du Saint-Esprit qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Amen. Je l'arrose à chaque instant, l'Église. Et vous savez que dans les temps les plus difficiles de persécution, l'Église a parfois été une vigne verdoyante. Pas parce que c'était facile, mais elle priait, elle se sanctifiait. Elle lisait les Écritures, elle chantait la gloire de Dieu, elle a été verdoyante aux heures de persécution. Alors il faut s'attacher au Seigneur sans distraction, il faut redoubler d'attention. En nous décrivant la suite des temps difficiles, Matthieu nous dit, l'évangéliste Matthieu nous dit, que celui qui lit fasse attention. Il y en a qui lisent boum, il y en a qui lisent tout. Que celui qui lit fasse attention. Dieu parle à son peuple dans les Écritures. Et il faut que nous nous attachions dans les temps difficiles, nous nous attachions sans distraction au Seigneur. La Bible dit, nous devons faire un seul esprit avec lui. C'est-à-dire, nous faisons qu'un avec le Seigneur. On s'attache. Et ça veut dire que si on est un seul esprit avec lui, entre mon esprit et son esprit, alors les pensées de Dieu vont venir dans mon cœur. et mes pensées et mes souffrances vont venir dans son cœur. Il va y avoir une communion, une harmonie entre le Seigneur et moi. Notre esprit, il appartient au Saint-Esprit. Il appartient au Seigneur et notre corps, c'est la propriété du Seigneur. C'est l'habitacle, notre corps, c'est la maison du Saint-Esprit. C'est la maison visible du Saint-Esprit. C'est pourquoi celui qui blesse, qui tue, commet un crime contre le Saint-Esprit. Notre corps, c'est l'habitation. C'est pourquoi il ne faut pas qu'il soit sans pudeur. Un corps sans pudeur attriste le Saint-Esprit. Un corps qui pratique le péché attriste le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu ne peut plus agir parce que ça ne passe pas. Et dans les temps qui viennent, il faudra s'attacher à Jésus pour être un seul esprit. Le Seigneur nous a promis le Saint-Esprit dans les temps d'effondrement, pas dans les temps forcément faciles. Il est dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair », Actes chapitre 2. Le soleil se changera en ténèbres. Ah bon ? Avec le Saint-Esprit. Le soleil se changera en ténèbres. La lune se changera en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Les jeunes gens auront des visions avant l'arrivée du Seigneur. Les vieillards auront des songes. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Nous sommes dans les temps où nous avons besoin d'un réveil, d'une visitation du Saint-Esprit pour nous attacher à lui. Et le Seigneur dans Ésaïe, il dit « Je la garde nuit et jour de peur qu'on ne l'attaque. » Mais notre salut, c'est être avec Jésus nuit et jour. Pas qu'au culte seulement, en dormant et avant de repartir. Notre salut, c'est être avec Jésus, parler à Jésus, se confier en Jésus, attendre une parole de Jésus. C'est notre salut et nous ne manquerons de rien. Amen. Mais il peut y avoir en nous, même dans les temps où nous allons partir avec le Seigneur, il peut y avoir en nous des épines et des ronces. Ésaïe nous dit, si je trouve des épines et des ronces, je vais les combattre. Jésus dit, les épines et les ronces, ce sont les soucis excessifs pour des bagatelles. Ce sont des soucis excessifs pour les vanités. Ce sont les joies du monde. Et le Seigneur dit, je vais les combattre parce que ces soucis vont vous endormir comme les 10 vierges qui dormaient le jour de la venue du Seigneur. Je vais les combattre. Regardez ce que faisait Lot la veille de la fin du monde de Sodome et Gomorre. Que faisait Lot? Il se tourmentait. Il était triste. Pourquoi ? La Bible dit « car il habitait au milieu des habitants de Sodome ». Qu'est-ce qu'il fait là ? Il aurait pu déménager. Il habitait au milieu de Sodome. Et quand il voyait ce qu'il voyait, le manque de charité dans Ézéchiel, un des plus grands péchés de Sodome, c'était le manque de charité. On ne faisait cas de personne. Mais le péché de Sodome aussi, c'était des péchés d'immoralité. Et quand il voyait ce qu'il voyait, il se tourmentait. Et puis des épines commençaient à pousser dans son cœur. Et vous savez l'histoire, il proposait ses filles. Il proposait qu'on abuse de ses filles pour protéger les anges. Bref, je passe sur cette histoire. Il faut que nous nous attachions au Seigneur en nous séparant de l'esprit du monde. En parlant sur la venue de Jésus, l'apôtre Paul, il dit, pardonnez-moi mesdames, que ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, que ceux qui ont des... ceux qui pleurent soient comme ne pleurant pas, que ceux qui trafiquent avec le monde, ceux qui font des affaires, qui réussissent, ça marche, ils se font de l'argent, alléluia. Eh bien, l'apôtre Paul dit que ceux qui trafiquent avec le monde, que ceux qui travaillent et qui réussissent, soient comme ne réussissant pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne devons, les choses de la terre ne doivent pas tout occuper. Ça veut dire que nous avons du temps à donner au Seigneur. Nous avons du temps à passer avec Jésus. Nous avons, pendant cette courte vie, à préparer les milliers de millénaires que nous passerons avec Jésus. Et il faut prendre du temps, laisser de la place au Seigneur. Il ne faut pas ressembler à cet homme qui était appelé par le serviteur, « Venez aux noces, tout est prêt. » Et certains ont dit, « Je ne puis aller car je viens de me marier. Je n'ai pas de temps pour toi, je n'ai pas un instant à te donner, j'ai plus rien, je ne peux même pas venir au culte parce que je me suis marié. » Un autre disait, « Je viens d'acheter un champ, j'ai bien réussi, j'ai plus de temps, j'ai plus de place. » Je pense que nous devons garder un espace, un temps pour vivre avec Jésus chaque jour, se mettre devant les Écritures. Seigneur, que veux-tu me dire? Nous devons travailler notre salut, travailler notre éternité et ne pas nous laisser dévorer par les choses secondaires. Provisoire, vaine, vanité, des vanités. Alors l'Apocalypse dit, je te conseille d'acheter de moi, je vais t'en donner, mais il faut que tu y mettes le prix dans la prière. Je te conseille d'acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux. Une ruine soudaine surprendra le monde, ouvre tes yeux. L'Église devra vivre au milieu de cette ruine. Déjà, elle vit. Regardez la Syrie. Regardez le Proche-Orient. Regardez les pays en guerre, les pays en famine, les pays soumis à des tremblements de terre. Regardez. Mais le Seigneur nous avertit que nous serons surpris. Voilà. Il nous dit, attention, vous serez surpris. Mais s'il nous dit ça, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on soit surpris. Parce qu'il dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour être surpris. Vous n'êtes pas des gens irrégénérés, inconvertis, débauchés, adultères. Vous n'êtes pas des gens incrédules, aveugles, charnels. Non, vous êtes des chrétiens. Vous êtes éblouis par la beauté de Jésus. Autrement dit, le Seigneur vous avertira. Il y a, j'en ai prêché dessus une fois, et je vais m'arrêter là, j'ai prêché une fois sur cette petite lampe intérieure, cette étoile du matin, qui brille dans nos cœurs. Je vous ai prêché une fois sur ce thème, vous ne vous en rappelez pas. Sur l'épître de Pierre, la lampe intérieure, pour l'instant, j'ai un peu de mal à la voir. Mais au moment où le Seigneur va revenir, l'étoile du matin, vous savez que l'étoile du matin annonce la venue du jour. Quand on la voit, on se dit, ah, le jour va se lever. Et il y a dans notre cœur une étoile du matin, une présence de Jésus qui va nous réveiller et qui va nous dire, voici l'époux, prépare-toi, le jour se lève, le jour arrive. Et quand l'étoile du matin brillera dans notre cœur, quand on se sentira là, appelé, alors ce sera le moment de se préparer à partir, mais il faut être prêt déjà, dès aujourd'hui, dès avant la fin du culte. Amen. Dans ces derniers moments que nous vivons dans l'histoire de l'humanité, avant le grand délabrement, ne vous laissez pas ébranler par des signes de mensonge. Ne perdez pas votre bon sens par des rêves ou par des paroles qui viendraient de quelqu'un d'important. Gardez les Écritures. Aujourd'hui, vous savez, scientifiquement, on est capable de produire des extases chez les gens. On est capable de les mettre en extase. Il y aura des manipulations. Ne vous occupez pas de ça. Restez stable, fidèle au Seigneur, attaché aux Écritures. Je reconnais que l'apostasie, ça veut dire l'abandon de la foi qui nous a été transmise de mes... Je ne suis pas encore trop jeune, je ne suis pas encore trop vieux, mais j'ai vu dans ma vie l'apostasie entrer dans le monde. Je l'ai vu, et je pense que ceux de mon âge peuvent le dire, et ceux plus âgés encore plus, mais cette apostasie, elle va affaiblir l'intelligence. On ne raisonnera plus, on se laissera mener par le pouvoir de l'argent, le pouvoir des autres, on ne réfléchira plus. Elle va affaiblir les églises, on n'aura plus du zèle, du courage, de la consécration. Il faut veiller, mais il faut combattre aussi contre les assauts du malin qui va se déchaîner contre les chrétiens. Mais nous avons la foi qui est solide comme une armure, comme un bouclier. Il faudra apprendre, frères et sœurs, à résister. Il faudra apprendre à être chrétien avant de faire quelque chose. Beaucoup de gens, dès la première fois qu'ils entrent dans l'église, ils n'ont jamais vu l'église, ils ne m'ont jamais vu, ils n'ont jamais entendu l'évangile, et ils me disent, et ça pourrait être applaudi en disant, c'est formidable quand même, c'est un réveil, ils me disent, qu'est-ce que je peux faire? Soyez d'abord chrétien. D'abord il faut être avant de faire. Parce que si on fait sans être chrétien, ça ne va pas tenir longtemps. Parce que les difficultés, les combats ne manqueront pas. Alors je mets un point final, je continuerai plus tard. Frères et sœurs, nous sommes du jour, nous sommes des enfants de la lumière. Je pense que le Christ nous a déjà parlé par sa parole, par des intuitions intérieures du Saint-Esprit, par des prophéties. Il nous a parlé qu'il était sur le point de venir, que les temps difficiles sont arrivés. Ne dormons pas. Restons les armes à la main, comme les soldats de Gédéon, debout, les armes à la main. Jésus vient bientôt. Amen. Je veux être prêt pour ce jour. Frères et sœurs, ce message que je vous donne ce matin est très important. Mais je veux encore vous rappeler une parole que j'ai dite rapidement dans cette prédication. L'Église ne doit pas s'adapter au monde. C'est plutôt au monde à venir. Je les ferai venir vers toi et reconnaître, ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Elle ne doit pas s'adapter au monde, mais elle doit devenir une voix qui murmure dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus disait dans ses dernières paroles de la prière sacerdotale, juste avant de mourir, il disait, et je finis là, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Seigneur, exauce ta prière. Amen. » Prions le Seigneur. Exauce ta prière, garde-nous du mal et dans tout ce que nous allons et devons vivre, que nous soyons vainqueurs. plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous voulons nous tenir debout, nous voulons rester en prière, éveillés, relever la tête, ne pas nous inquiéter, nous aimer ardemment, veiller les uns sur les autres. La charité couvre beaucoup de péchés. Nous voulons être une église en attente, en accueil, dans la joie du Maître qui nous arrose de son esprit jour et nuit. Merci pour tes promesses, merci pour ton œuvre avant ce jour grand, merveilleux et terrible de ton retour. Nous voici, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen.